titre d'aujourd'hui, c'est « Comment vivre comme Jésus, partie 2 ». Et en attendant que le PowerPoint se présente, je dis « partie 2 ». Est-ce que vous pouvez deviner ou vous rappeler pourquoi je dis « partie 2 » ? Mais c'est parce que David a prêché, il y a 3 semaines, un message intitulé « Comment vivre comme Jésus ». Alors, moi, j'ai tellement aimé son titre. Et puis, en fait, je reprends un texte dont il a beaucoup parlé dans son message. Et comme c'est un texte important et qui se marie bien avec Noël, on va le revisiter maintenant dans Philippiens. Comment vivre comme Jésus, partie 2. Je vous invite à prier avec moi, encore une fois. Guide-nous maintenant, Seigneur, au nom de Christ. Amen. Est-ce que ça suffit comme prière? Oui. Merci pour votre patience. Et alors, lisons le texte. C'est Philippiens 2 à partir du verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, on a parlé d'espérance la semaine passée. Et donc, avant que Jésus vienne, l'espérance venait des prophètes. Ils annonçaient quelque chose de grand qui allait venir. Dans Philippiens, bien, le Messie est déjà arrivé. Et il y a quelque chose, on est comme dans une nouvelle étape d'espérance. C'est que Jésus est en train de nous changer. Donc, quand Paul écrit aux Philippiens, parmi les premiers chrétiens du monde, il leur dit, « Moi, j'ai une ferme espérance que vous êtes en train de changer et que le changement qui est en vous va être amené à la perfection. Je le vois déjà à l'œuvre. » Et comme j'ai dit tantôt, moi, je le sens en vous. Et par la foi, je le vois aussi en moi. J'espère que vous le voyez en moi, mais c'est entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui vont me dire, « Moi, je ne changerai jamais. » Des fois, ils vont dire, « Je ne veux pas changer, je suis content d'être comme je suis. » D'autres, plus nombreux, vont dire, « Mais j'essaie de changer, mais je ne suis pas capable. » Et vous savez, ils ont raison, on ne peut pas se changer soi-même par notre volonté ou nos efforts seuls. Mais la bonne nouvelle avec Jésus, c'est que si on a placé notre foi en lui, on a placé notre foi dans un Dieu qui est vivant, qui est actif, qui est puissant. Son Saint-Esprit vient et agit en nous, petit à petit. Des fois rapidement, souvent lentement. Et c'est pour ça que Paul prie pour les Philippiens, et ça, on a vu ça au début de la lettre, puis c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici ma prière pour vous, les Philippiens. Ça s'applique aussi à nous, parce qu'on est des chrétiens comme eux. Voici ma prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient de Jésus-Christ, Ça, c'est Philippiens 1, 9 et 10. Alors, on pourrait dire la prière pour nous que Paul dit ici, bien, je pense que c'est quelque chose qu'on peut prier pour soi-même, mais qu'on peut prier les uns pour les autres. Paul était convaincu que la prière était en train d'être répondue. Et c'est quoi cette prière? Grandir dans l'amour. Que je grandisse dans l'amour. Puis il y a deux aspects pour toi de grandir dans l'amour. Premièrement, savoir que tu es aimé. Et c'est ça le secret ou la chose merveilleuse d'être chrétien. Parce qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas aimé. Mais le chrétien découvre « Le Dieu de l'univers m'a tant aimé. » Il m'a tant aimé. Et ça me change de découvrir, d'être face à face avec ce Créateur qui m'aime. Donc, grandir dans ma conscience d'être aimé, et il y a un flot qui sort à ce moment-là, dans ma capacité d'aimer les autres, d'aimer même au-delà des humains, la création de Dieu. Je reçois l'amour, je la transmets. Donc, que je grandisse dans cet amour de plus en plus. Deuxièmement, dans l'intelligence d'aimer. Saint Paul, il dit que vous discerniez qu'est-ce qui est le meilleur dans chaque situation. On est en train d'apprendre à aimer de plus en plus intelligemment. Et c'est sa prière pour nous aussi. Et ça, c'est merveilleux également. Puis finalement, il ajoute cette idée que je sois motivé par la grande rencontre, parce qu'il met en perspective qu'on va être face à face à Jésus au jour où il va revenir et qu'on va être devant lui. Mais nous, on n'approche pas de ce jour-là dans la peur, comme peut-être c'était le cas avant qu'on le connaisse. On se dit, « Oh boy, je ne voudrais pas rencontrer Dieu. » Je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais terrifié par cette idée de rencontrer Dieu. Et aujourd'hui, c'est plutôt une crainte respectueuse. Mais de plus en plus, j'apprends à avoir hâte. Et ça me motive à grandir dans l'amour. Alors, voici la prière qui est pour nous, que je grandisse dans l'amour, dans mon intelligence d'aimer et aussi dans ma motivation face à cette rencontre d'amour futur avec Jésus. Comment est-ce qu'on y arrive? Mais c'est sûr, on prie, donc c'est Dieu qui le fait, pas nous. Mais en même temps, Paul nous donne une recommandation. Il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Puis ça, prenez pas ça comme un lourd fardeau. Ah, il faut que je travaille fort pour ressembler à Jésus. C'est pas exactement ça. C'est plutôt, prenons le temps, développons l'habitude de lire, d'étudier, de contempler la vie de Jésus, comment il a vécu. Et dans ses actes, voir aussi l'attitude qui ressort. Justement, David nous avait guidé il y a trois semaines. David, tu nous avais dit ceci par rapport à Jésus. Une bonne nouvelle, encore une fois, qu'il faut prendre, pas comme un fardeau, mais comme une grâce. Voilà. Tout ce à quoi Jésus avait accès dans son humanité pour pouvoir vivre comme il a vécu, Dieu nous l'a donné aussi. Tout ce que Dieu a donné à Jésus comme humain pour vivre comme Dieu le veut est aussi à notre disposition. On en a parlé. Ça ne vient pas exactement de la Bible, mais quand même, ça vient de David Tracy. Mais c'est vraiment, si Paul nous dit « Ayez une attitude semblable à Jésus », c'est qu'en quelque part, c'est possible. Et David nous a bien expliqué pourquoi Jésus s'est incarné. Il a revêtu, il a pris notre humanité sur lui pour qu'on puisse marcher à sa suite. Et donc, dans le texte qu'on a lu tantôt, qui est un petit peu plus loin, Philippiens 2, à partir du verset 5, il y a un tableau qui est dressé de Dieu le Fils qui devient Jésus l'homme. Dieu le Fils qui devient un être humain. Et vous avez vu, il y a comme une trajectoire dans le temps et dans l'espace. Il descend du ciel et devient homme. Et le portrait commence avant la création. Il est de condition divine. Et ensuite, il prend la forme ou la nature humaine. Et il vit parmi nous, pas de n'importe quelle façon, on va le voir. Et ensuite, on voit même qu'est-ce qui se passe après sa vie, jusque dans l'éternité future. Quel beau tableau! On va le relire maintenant avec peut-être, pourquoi pas, une attitude juste de prière silencieuse. Mais moi, je vais lire à voix haute et contemplons Jésus ici, tel que Paul nous le décrit dans ce poème que, j'imagine, lui a écrit. Il y en a qui pensent peut-être qu'il a pris un cantique chanté par les premiers chrétiens, puis il l'a mis dans sa lettre. On ne sait pas. Mais lui qui est de condition divine, il parle de Jésus ici, avant qu'il vienne sur la terre, lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Je vais peut-être arrêter là. C'est sûr que c'est important aussi que c'est Dieu, le Père, qui l'a élevé. Ce n'est pas lui qui s'est élevé lui-même. Et il est maintenant le roi de l'univers. Mais dans ce portrait, il y a une attitude qui ressort. Je l'ai mis en trois parties. Jésus, depuis le début, obéissance confiante à son Père. Ensuite, humilité. C'est un mot qui revient dans ce poème et qui est vraiment important. Et troisièmement, acceptation de servir les vrais besoins, selon Dieu. Et quand je dis servir les vrais besoins, c'est que dès le départ, Jésus accepte d'aller là où Dieu le Père lui dit d'aller servir. Alors, ce n'est pas qu'il est forcé. « Ah, maman me demande de faire la vaisselle. Si je ne le fais pas, je vais encourir sa colère, mais c'est sûr que je vais la faire. Je n'ai pas le goût, je vais le faire en boudant, mais je la fais. » Ce n'est pas dans cet esprit-là d'obligation. Et ce n'est pas non plus le conformisme. Des fois, on veut plaire aux autres et c'est comme une pression sociale de faire des choses. Et ce n'est pas ça non plus que Jésus a vécu. Ce n'est pas ça qu'il nous apprend à faire, mais c'est plutôt, Jésus se retirait, il était face à face avec son Père, Dieu qui l'aimait. Et c'est comme s'il recevait des intuitions. Et c'est comme s'il recevait des instructions. Voilà où est le vrai besoin. Ne fais pas ce que la société te force à faire. Moi, je te dis, fais ceci. Alors, c'est dans ce sens-là, les vrais besoins. C'est aussi d'apprendre à discerner où Dieu le guide. Et je dis tout ça parce que nous apprenons aussi à vivre comme ça. Pas être forcé, pas du conformisme social, pas du people pleasing, comme on dit en anglais, mais recevoir l'amour de Dieu et aussi ses directives. Obéir avec confiance, vivre dans l'humilité. Et l'humilité, c'est humilité sur la terre quant à son vrai statut dans le ciel. Ça, c'est Jésus. Et nous pouvons imiter cela aussi. Comme c'est le temps de Noël, j'aimerais quand même vous parler de des choses qui, moi, m'ont frappé dans le début de la vie de Jésus, y compris sa naissance, mais aussi un peu avant, concernant cette attitude que Jésus a depuis le début. Observons sa trajectoire. Premièrement, avant la création. Okay, écoutez bien ça, là. Dieu le Fils existait auprès de Dieu le Père. La Bible dit plusieurs fois. De toute éternité, Dieu le Fils était tourné vers le Père et recevait son amour. Avant qu'il y ait l'univers, il y avait la Trinité. Et il y avait cet amour qui se communiquait. Et le Fils aimait le Père en retour. La Bible nous dit que de toute éternité, dans Dieu le Fils, était contenu en potentiel ou en semence, toute la création, les galaxies, la terre, les animaux, les plantes, les humains, toi et moi. Tout était comme le Père voyait dans le Fils un peu le représentant de la création et de toute l'humanité. Et donc, nous étions aimés, même avant notre création, avant notre existence, par le Père dans le Fils. Et voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses ont été créées par le Fils et à travers le Fils. C'est un peu mystérieux ce que je dis là, mais c'est vraiment important. Parce que le Fils recevait l'amour du Père de toute éternité. Il n'y avait pas de commencement. Mais cet amour-là, il ne l'a pas gardé pour lui. Il ne pouvait pas le garder pour lui. Puis ça l'a explosé dans la création. Et la création a été aimée par Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer. Et cet amour, ben, c'était prévu que le Fils allait s'incarner. Il allait devenir homme. Pourquoi? Pour venir nous sauver. Les humains ont été créés libres, ont perdu leur chemin. Le Fils s'est incarné pour venir nous sauver. Et donc, la croix elle-même était prévue de toute éternité. Wow! Tous ces actes d'amour étaient décidés d'avance ensemble dans la Trinité. Voilà pourquoi la Bible dit « Dieu est amour ». C'est quand même profond. C'est quand même... Voilà, il y a des théologiens qui ont passé, bon, depuis des siècles, qui se penchent là-dessus, puis ça nous amène à l'adoration. Je veux dire, c'est des mystères qui nous font jeter à genoux nos corps et dire « Dieu, tu es amour ». Nous t'adorons. Et on voit que cette attitude qu'on a vue en Jésus, elle était déjà dans Dieu le Fils, qui est devenu Jésus. Attitude d'obéissance, d'humilité, de service sacrificiel. Pourquoi? Parce qu'il avait cette confiance, cet amour qu'il recevait de Dieu son Père. Si vous avez juste compris à 45%, vous allez quand même réussir votre examen. C'est vraiment des choses profondes, mais il fallait les dire, parce que c'est ça qu'on célèbre à Noël. Ensuite, on pense à sa naissance. Là, on est dans un terrain un peu plus connu, ou un peu plus proche de notre réalité. Paul en connaît des éléments, mais nous, on en connaît peut-être plus que Paul, parce que saviez-vous que les évangiles ont été écrits après les épîtres de Paul et certains après la mort de Paul? Et les évangélistes qui ont écrit les évangiles ont fait des recherches. Donc, nous, on connaît pas mal de choses vraiment extraordinaires sur la naissance de Jésus. Il est venu naître parmi des gens pauvres et sans pouvoir. Il est né dans une famille très humble. Il est né dans une région du monde marginale et pleine de dangers, qui fait que Jésus et sa famille, c'était des migrants en danger de mort. Ils ont dû fuir pour aller en Égypte. Et il y a des gens ici qui savent c'est quoi être des migrants qui doivent fuir. Et Jésus l'a vécu. Et tout ça prévu d'avance par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Des drôles de décisions quand même. Et Dieu a prévu que pour son Fils, une mangeoire d'animaux de ferme serait le meuble principal pour le soin du bébé. Une mangeoire d'animal, quand même. Voilà le berceau que Dieu a choisi pour son Fils unique. Dans son étonnement, l'auteur et poète Rubin Saïens, il y a plusieurs idées là, qui viennent d'un de ses livres ici. Rubin Saïens a écrit ceci: « L'incarnation n'est-elle pas le plus grand acte d'humilité que les anges et les hommes aient jamais contemplé? » Jésus a vécu les 30 premières années de sa vie dans l'ombre. Il était maçon-charpentier. Et il vivait avec les gens pauvres. Le seul épisode qui nous est rapporté de cette longue période de jeunesse, il avait 12 ans. Et déjà, on voit qu'il a conscience de son origine divine. Il dit à ses parents: « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Et par la manière qu'il dit cela, on comprend que lui, il sait qu'il a affaire à un père dont les affaires le regardent lui d'une manière que ne regardent pas ses parents. C'est-à-dire, il doit s'occuper des affaires de son père, et ça, ce n'est pas le cas de ses parents. C'est ça le sens de ces paroles-là. Donc, il est conscient qu'il est différent, qu'il vient du ciel. Mais il ne s'obstinera pas avec ses parents. Il est marqué qu'il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. C'est l'épisode où il est resté à Jérusalem et il a été perdu pendant quelques jours. Il était dans le temple à s'occuper des affaires de son père. Voilà encore cette attitude pleine de confiance, d'obéissance et d'humilité. Et puis finalement, quand il est sorti de l'ombre, c'était pour faire quoi? Il est allé vers Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Jean-Baptiste? D'être baptisé, oui, exactement. Et quand il est allé voir Jean-Baptiste, il s'est mêlé à la foule de pécheurs et de toutes sortes de gens qui ont offensé Dieu et qui venaient vers Jean-Baptiste se faire baptiser. Et Jean lui a dit: « Non, pas toi. » Mais Jésus a dit: « C'est la volonté du Père, il faut que tu me baptises. » Et donc Jean a accepté. Quand Jésus est plongé dans cette eau, il va se confondre avec la foule de pécheurs qui sont là et dont nous faisons partie aussi. Il va se confondre avec la foule de pécheurs. Et dans l'eau de son baptême, ce n'est pas son propre pardon qu'il est allé chercher, creuser. Ce n'est pas ça qu'il est allé chercher dans l'eau, mais c'est sa croix qu'il est allé ramasser dans cette eau du Jourdain. Et en sortant de l'eau, c'est cette croix qu'il a portée jusqu'au calvaire. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Alors, le temps est bien avancé. Je ne sais pas si ils ont peut-être besoin de beaucoup de temps en bas, j'ai aucune idée. Mais on peut conclure avec quelques idées ici. Je vous rappelle ce panorama qui commence avec « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. » Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même jusqu'à la croix. Voilà pourquoi, en gardant les yeux sur cette vie, en étant des étudiantes et des étudiants de la vie de Jésus, c'est ce qu'on fait quand on vient ici, on se rappelle de Jésus. Et on cultive cette attitude en nous-mêmes. Comme ça, on va continuer à grandir dans l'amour, dans l'intelligence et dans cette expectative qui nous motive. Pensons un peu maintenant à notre vie aujourd'hui. À quelle attitude de service Dieu m'appelle-t-il? Quelle relation difficile dans ma situation actuelle me demande d'imiter Jésus peut-être un peu plus? Peut-être qu'il faut que je change ma manière de voir. Peut-être que c'est dans ta famille, dans ton emploi, dans ta vie d'église. Peut-être c'est parce que tu as un conflit avec un voisin. Mes réflexions m'ont amené à la question de la grève, des grèves que nous vivons aujourd'hui au Québec, dans le secteur public. Et nous rappelle que partout autour de nous et parmi nous, vous êtes plusieurs qui servent les autres dans des conditions difficiles. Et vous ne sentez pas qu'on reconnaît votre vrai statut ou votre vrai mérite. On ne reconnaît pas votre vraie valeur. Et peut-être aussi on vous fait travailler sans considérer vos besoins. Puis peut-être que votre santé est affectée. Hein? Le domaine de la santé, combien il y en a des membres et participants de l'Oasis qui sont préposés aux bénéficiaires? Il y en a plusieurs, même dans cette salle, je pense. Je ne sais pas si j'ose vous demander de lever la main. Y a-t-il des préposés ici parmi nous? En voilà une, en voilà deux. Et il y en a plusieurs autres qui sont peut-être pas ici parce qu'ils sont dans leur lieu de travail. Mais il y a des infirmières et des infirmiers et des médecins et des aides infirmiers, infirmières. Et l'éducation, on a des maîtres d'école, des professeurs parmi nous. Et eux aussi, ils souffrent beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas ici pour me prononcer sur la grève. Heureusement qu'on est dans un pays où on a le droit de faire la grève. Et j'aimerais parler d'un autre aspect, c'est que même après la grève, ces endroits-là vont continuer à être des endroits où servir les autres va être difficile. Mais c'est là où toi, en tant que chrétien, si tu cherches à imiter Christ, tu peux faire une différence. Je Je pense aux préposés aux bénéficiaires. Quel travail essentiel, quel soin important qui demande de l'humilité. Et il y en a qui le font avec de l'amour aussi. J'ai une sœur, nous avons une sœur dans l'Église qui me disait, « Ben voilà, le problème là où je travaille, c'est que notre boss, le boss de notre unité de préposés aux bénéficiaires, elle a une approche très administrative, mécanique, pas très personnelle, et c'est comme, ben voici les règlements, voici mon pouvoir, toi tu vas à telle place, toi tu rentres à telle heure, toi tu fais du surtemps ici. » Et cette personne qui est gérante, elle ne soigne pas dans cette unité-là suffisamment. L'esprit d'équipe, la motivation personnelle et les besoins personnels des préposés. Alors, cette sœur me dit, ben là où la boss n'investit pas, ben moi, je peux le faire. Discrètement, mais délibérément, pour le bien de mon équipe, en essayant d'apporter un esprit d'équipe, en essayant d'apporter un mot d'encouragement à mes collègues, en essayant de donner l'exemple. Elle ne m'a pas dit ça comme ça, mais je sais que c'est à cause de Christ qu'elle fait ça. Et pour moi, c'est un bel exemple de comment un chrétien ou une chrétienne peut discrètement faire une différence à cause de l'attitude qui est en Christ et qui est maintenant en elle. Et puis, mon épouse me parle des animateurs spirituels dans leur commission scolaire. Leur équipe a fait quelque chose, je trouve, de vraiment bien. Parce que c'est un rôle, les animateurs spirituels, que le gouvernement actuel cherche, on dirait, à éliminer. Et ils essayent de changer le rôle tel qu'il était supposé être, et ils veulent réduire les coûts. Et c'est un moyen, c'est de diminuer ou d'éliminer un service. Et c'est vrai que le mot spirituel est devenu très large, et aussi beaucoup de directeurs d'école ne valorisent pas ce que c'est. Avant, quand il y avait beaucoup d'étudiants pratiquants, ils cherchaient à accompagner les jeunes à faire le lien entre leur vie peut-être religieuse à l'extérieur de l'école et leur vie à l'école. C'est plus ça du tout maintenant. Et l'équipe de Cheryl, ils ont dit, ben là, plutôt que de rouspéter, une chose qu'on peut faire, c'est identifier des vrais besoins qui ne sont pas adressés dans les écoles. Et dernièrement, ils ont développé deux programmes. Un, c'est Ma cour, un monde de plaisir. Ça, c'est former les jeunes à ce que les récréations soient des moments de jeu constructifs. Et là, c'est en particulier de former les primaires 6, les plus vieux, à organiser des jeux eux-mêmes dans la cour d'école pour aller chercher les plus jeunes à entrer dans les jeux. Et tout ça, c'est super le fun parce qu'ils font des formations, ils apprennent des jeux, ils apprennent même des principes du scoutisme. Et en organisant ces jeux-là dans la cour d'école, ça diminue l'intimidation, ça diminue l'oisiveté et ça fait beaucoup d'autres bonnes choses aussi. Et puis, un autre programme qui commence à développer, l'accompagnement du deuil qui était inexistant avant. Alors, les enfants qui perdent un parent ou un élève qui meurt d'un accident, eh bien, l'équipe est là pour faire un accompagnement du deuil. Et donc, je vois dans un sens quelque chose de l'imitation de Jésus, là. C'est-à-dire, plutôt que de voir comme un butin à préserver mon statut, bien, on va plutôt aller vers la marge et puis découvrir des nouveaux besoins et les rencontrer. Alors, voilà deux exemples de choses qui m'ont encouragé. OK, nous allons prier maintenant. Je vous inviterai à vous lever et on va prier. Puis après ça, j'inviterai les musiciens. Vous pouvez même venir maintenant, les musiciens, pour vous installer. Seigneur, merci pour ces deux témoignages et je suis sûr qu'il y en a plusieurs autres. Mais chacun de nous, c'est à notre portée de regarder à toi, Jésus, et d'apprendre à vivre avec cette attitude, ce cœur et cette humilité. Alors, Père, aide-nous et merci qu'à ce Noël 2023, nous pourrons apprendre des choses par rapport à toi que nous pourrons approfondir et que nous pourrons apprendre à mettre en pratique. Oh, que cette prière que nous progressions, Seigneur, on la prie pour nous-mêmes. Je la prie pour moi-même. Je la prie pour mes frères et sœurs. Et Seigneur, merci d'avance de l'accomplir. Au nom de Christ, amen.